Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le torchon brûle entre le maire de Manosque, Camille Galtier, et le président de DLV Agglo, Jean-Christophe Pétrini. Le vote du budget 2022 s'est déroulé dans une ambiance tendue. Nous les entendrons tous les deux dans ce magazine. La CCI des Alpes de Haute-Provence est une entreprise au service des entreprises du département. L'Assemblée Générale de la Chambre l'a confirmé. Nous écouterons le reportage de Chris Alessandri. Le service d'accompagnement à la rénovation énergétique est gratuit, c'est une aide précieuse pour faire des économies. Le reportage de Mathieu Marc pour Force 7. Éthique et fin de vie, un sujet qui a attiré un public nombreux et concerné à Digne. L'interview du docteur Michel Cayol dans un instant. Le planétarium du Centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire est un véritable bijou, même s'il a fallu attendre plus de 20 ans pour sa réalisation. Reportage à la fin de ce magazine. DLV Agglo vote son budget 2022 dans une ambiance délétère.
Depuis 2013, date de la création de Durance-Luberon-Verdon agglomération, un doux ronron régnait lors du vote des budgets et comptes administratifs de l'agglomération manosquine. Ce temps-là est révolu. Depuis plusieurs mois, l'animosité entre le président de Durance-Luberon-Verdon agglomération, Jean-Christophe Pétrini, et le maire de Manosque, Camille Galtier, est sur la place publique. Elle tend les rapports entre la plus importante commune de l'agglo et la plus importante intercommunalité après le département des Alpes de Haute-Provence. Pour faire court, la nouvelle équipe municipale manosquine estime la commune lésée par la collectivité. Ces derniers mois, quelques escarmouches, dont beaucoup par presse et réseaux sociaux, ont affiché des divergences et des crispations inédites. Le vote du budget la semaine passée marque une étape dans cette situation. Camille Galtier a demandé, comme pour le taux des taxes communautaires, qu'il soit voté à bulletin secret pour protéger les élus, vous l'entendrez dans un instant. Et si la majorité a suivi son président, 34 votes pour, 21 contre et 4 abstentions, c'est bien un coup de semonce qui a fait trembler l'édifice communautaire et laisse augurer des débats et actes qui pourraient être lourds de conséquences pour les deux parties, ville et agglo. Plusieurs sujets ont illustré les chiffres affichés, la démutualisation des services, la dotation de solidarité aux communes ou encore la clôture de la ZAC Chanteprunier et son règlement, mais celui qui a mis le feu aux poudres est l'instauration de la taxe sur le foncier bâti à un taux de 2%, une nouveauté qui va impacter les habitants à un moment où inflation galopante et pouvoir d'achat sont au cœur des préoccupations des Français. Le président Pétrini a proposé d'installer un comité de gestion pour mieux cerner ces questions et où les élus pourront s'exprimer et proposer des pistes au conseil communautaire. À suivre donc, mais d'ici là, rien ne permet de dire que la hache de guerre est enterrée ni quand elle le sera. On peut simplement espérer que chacun fasse des concessions pour que l'intérêt général l'emporte, car il est impossible d'imaginer Manosque sans son agglo et vice-versa. Revenons au conseil communautaire du 8 avril 2022. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Pétrini, puis Camille Galtier. Jean-Christophe Pétrini, président de la DLVA, le vote du budget s'est réalisé et vous avez mis en place aussi pour ce budget un dialogue de gestion.
Oui, tout à fait. Donc, il est impératif qu'on commence à se poser des bonnes questions au niveau de l'agglomération. On a 7 années, 8 années d'existence. Maintenant, il est temps de faire un inventaire de ce qui a été réalisé depuis 2013, de la portée de nos compétences que l'on assure à la place des communes, voir si on est allé trop loin dans certaines compétences ou pas assez. Il y a besoin donc de s'asseoir là-dessus et d'entamer un dialogue de gestion avec l'ensemble des élus et de regarder aussi quelle efficience on peut donner aujourd'hui à nos compétences. Donc c'est très important. Ça va nous permettre de faire ce droit d'inventaire qui est important à mon avis au bout de 7-8 années d'existence. Et je suis ravi que le budget ait été adopté parce que ça a été un petit peu difficile cette année hein, puisqu'on devait trouver rapidement 4 millions d'euros pour solder la ZAC Chantepruniers. C'est pas évident. Donc un consensus a été trouvé, même si certains ne sont pas encore d'accord avec tout ça, mais bon, c'est le jeu de la démocratie.
Vous avez créé une taxe sur le foncier bâti. Qui va faire parler et qui a déjà commencé à faire parler.
Oui, mais nous étions la dernière intercommunalité à ne pas l'avoir levée. Puisque le foncier bâti n'avait pas été levé par la communauté de l'agglo jusqu'à maintenant. On va faire des économies, et c'est le plus important au niveau du fonctionnement, mais pour nous permettre de finir l'année avec une épargne maintenue, pour pouvoir continuer à investir correctement, il nous fallait lever un, voire deux points. Les deux points ont été acceptés ce soir sur le foncier bâti, ce qui a été fait.
Camille Galtier, vous êtes maire de Manosque. Vous avez demandé à ce que le vote du budget soit fait un bulletin secret. Pour quelle raison?
Car il y a quelques semaines encore, des chefs d'entreprise ont fait notamment des articles de presse demandant à l'ensemble des collectivités et communes de faire attention sur la question de la pression fiscale. Et c'était représentatif de l'ensemble des chefs d'entreprise du territoire qui pensent eux aussi au développement et à l'aménagement de notre territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Dans le même temps, en quelques jours, des engagements prévus par l'agglomération à travers la CCI et l'agence de développement ont été retirés. Donc, comme la confiance n'empêche pas le contrôle, j'ai demandé à ce que le vote puisse se faire à bulletin secret pour ne pas qu'il y ait de représailles sur les maires qui puissent faire un choix opposé à la présentation du budget de l'agglomération. Je note que d'un budget qui devait être consensuel, on obtient 34 voix sur 59. C'est problématique aujourd'hui dans la vision du territoire que l'on doit avoir pour les 4 prochaines années.
Les difficultés de relations entre la DLVA et la ville de Manosque sont loin d'être atténuées?
Elles sont loin d'être atténuées et je le dis et je le répète, c'est la première fois qu'un budget de l'agglomération est aussi mal voté et que l'on passe en dessous des 45 voix. 34 voix favorables pour ce vote du budget. Il est clair que les voix de la majorité municipale n'ont pas suffi à faire en sorte que ce budget ne soit pas adopté. Néanmoins, j'y vois clairement une cassure dans cette agglomération et ce sera au président de faire en sorte qu'il les répare, mais je vois au vu de son comportement et de certains de ses soutiens que ce sera compliqué à l'avenir.
Et l'attitude du maire de Manosque?
Le maire de Manosque défendra les intérêts de ses administrés comme il le fait depuis le départ et qui malheureusement ne sont pas écoutés.
CCI 04, l'entreprise au service des entreprises du département.
Dernièrement, Sisteron accueillait l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence. À cette occasion, Daniel Margot, président de la CCIT 04, accompagné de Philippe Renaudy, qui préside la Chambre régionale, a présenté sa nouvelle équipe, entre autres invités, à Daniel Spagnou, maire de Sisteron et président de l'Association des maires du département. Au menu des travaux, l'action menée dès le premier confinement de la crise sanitaire pour venir en aide aux entreprises et particulièrement aux commerçants, en partenariat avec la région Sud, puis l'État. Lors des débats de cette assemblée, une troisième vice-présidente a été désignée, ainsi que des membres associés et des conseillers techniques, avant de développer la stratégie de la CCI pour les 5 années à venir via 7 commissions qui auront un travail transversal. À noter aussi l'annonce de la création d'antennes de la CCI dans les 3 villes sous-préfecture du 04, Forcalquier, Digne-les-Bains, Barcelonnette et également prévu à Sisteron. À la fin de l'Assemblée générale, les réactions de Delphine Bagary, députée des Alpes de Haute-Provence, puis Daniel Margot, président de la CCI 04, et enfin Camille Galtier, conseiller départemental et maire de Manosque. Ils répondent aux questions de Chris Alessandri.
Oui, la première chose qui a été dite, c'est les difficultés des entreprises face à la crise énergétique et la montée du prix de l'énergie d'une part, et d'autre part, leur responsabilité qu'ils ont de toute façon de participer à l'attractivité du territoire à la bonne santé de leurs salariés, en évoquant très fortement la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et aussi du coup de l'attractivité du territoire à travers cela. Il a été question beaucoup de collaboration, et je pense que c'est ça qui est important. On a vu le président de la CCI régionale parler de collaboration des CCI entre elles, de mutualisation, et je pense que c'est au cœur des enjeux de demain, c'est que l'on puisse travailler tous ensemble au sein d'une même organisation, mais aussi de la collaboration avec le monde politique, avec les maires pour l'aménagement du territoire, avec les élus nationaux pour les financements, et aussi pour que tous ensemble nous arrivions à vivre mieux, de façon plus écologique et finalement de façon plus sobre aussi, parce qu'on parle de sobriété énergétique beaucoup et d'entraide les uns avec les autres, et ça c'est important. C'est ce, j'allais dire peut-être, c'est ce que je retiendrai de cet AG, c'est le besoin de collaborer et le besoin de construire ensemble.
Delphine Bagary, vous l'avez dit, beaucoup d'actions sur le territoire, beaucoup de concertations, et puis tout un esprit également avec la CCI. Cet esprit, il est comment à l'heure actuelle, compte tenu du contexte? Nous sortons du confinement, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment ça se passe?
Il me semble qu'il y a un esprit d'ambition, de fierté, et de penser qu'ici, aussi dans les Alpes-de-Provence, on peut réussir dans l'entrepreneuriat et pouvoir attirer et fidéliser des salariés, mais aussi des clients, en étant extrêmement responsable. Voilà, moi je crois que c'est cet esprit-là qui a prévalu dans cette Assemblée Générale. Vraiment de l'ambition, de l'humilité, mais beaucoup d'envie.
Daniel Margot, quels ont été les axes que vous avez choisis, que vous avez définis pour cette Assemblée Générale?
Alors on a au total 8 grands axes, hein, ou 4 axes principaux, qui sont la digitalisation, numérisation, formation continue et formation par alternance, appui aux entreprises, et enfin présence territoriale forte par, on va dire, une toile d'araignée que l'on souhaite tisser sur l'ensemble du territoire.
Daniel Margot, vous avez justement beaucoup insisté sur le fait qu'il faut une implantation, il faut vraiment du contact, aller de l'avant.
10 000 ressortissants. 3 heures entre Barcelonnette et Manosque. Oui, il faut une présence à la fois de nos permanents, qui sont un peu trop sédentaires à Digne et à Manosque. Il va falloir, à travers la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les former, les accompagner, à accompagner nos propres entreprises. Et ensuite, les élus. Les élus, on a la chance d'avoir, entre les élus et les membres associés, un tissage sur l'ensemble de notre territoire.
La formation, vous avez beaucoup insisté, c'est une priorité.
Priorité absolue. Priorité absolue parce que c'est gage de rentabilité pour nous, et donc de désengagement de la TFC, hein, d'être indépendant de la TFC. Et le deuxième volet, c'est que tout simplement, on a besoin de têtes blondes bien formées, et je suis un fervent défenseur de l'alternance.
Alors là, visiblement, une réactivité qui est très positive, hein, dans cette réunion avec cet AG. Quel regard le président porte sur l'avenir avec la CCI, compte tenu bien sûr des différents contextes que nous traversons?
Alors, ben, justement, depuis la crise Covid, les CCI ne servent... Avant la crise Covid, les CCI, on ne savait pas à quoi ça servait. Aujourd'hui, on sait. Pendant la crise Covid, on a accompagné de deux façons. On manquait de masques, on manquait de gel hydro, les entreprises fermées. C'était la panique généralisée. Le deuxième volet, c'était le plan de relance. Donc, on a été mis en première ligne par le gouvernement et on a répondu présent. Si bien que là, le gouvernement et Bruno Le Maire nous a confié une mission d'accompagner toutes les entreprises qui sont en risque avec le conflit en Ukraine, aussi bien en import qu'en export. Donc, depuis 3 ans, les CCI sont redevenus utiles.
Économiquement, en bonne santé?
Oui, si on arrive à développer quand même du business, puisque la TFC risque de baisser, la taxe de fonctionnement des chambres, hein, on est toujours quand même ponctionné. Économiquement, en bonne santé, certes, mais avec des engagements de chiffre d'affaires qui doivent être un peu comme dans nos entreprises.
Camille Galtier, comment s'est passée cette rencontre? Quelle impression vous en retenez en tant que représentant du conseil départemental et maire de Manosque, bien sûr?
Ben, on voit dans la dynamique donnée et proposée par le président de la CCI, Daniel Margot, et par son équipe, qu'il y a une vraie volonté de coopération et de dynamique collective à donner avec les pouvoirs publics. C'est ce que je souhaite, moi, en tant que à la fois maire de Manosque et à la fois conseiller départemental et président du groupe majoritaire d'Eliane Barreille au département. C'est-à-dire qu'ensemble, on sera forcément plus forts. Et de dire que les pouvoirs publics et les décideurs publics, on peut pas seulement prélever l'argent aux entrepreneurs et aux contribuables et derrière en faire ce que l'on veut. Il faut que l'on travaille ensemble, notamment, je crois, sur la question des zones d'activité et des zones industrielles.
Un potentiel auquel vous accordez énormément d'importance, c'est la formation également, surtout sur le secteur de Manosque.
On a un potentiel de formation, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un territoire un peu délaissé en termes d'université notamment, mais on peut avoir le potentiel sur tout ce qui va être apprentissage. On a un lycée Martin Brett avec un conseil régional qui est en train d'investir 30 millions d'euros sur le lycée professionnel Martin Brett. On a un lycée des Isques qui développe les activités et les BTS. On a le centre de formation du CFA de la CCI qui se développe et qui met en place de nouvelles formations. Donc on doit jouer ce volet à 100% sur l'apprentissage. C'est en plus une volonté partagée par l'ensemble des candidats à la présidentielle de continuer à développer l'apprentissage. Il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là.
Comment se porte le commerce ?
Écoutez, on vit une période très compliquée avec à la fois le Covid avant, maintenant la guerre en Ukraine. Néanmoins, je remarque moi sur ma ville une activité, elle n'est pas florissante, il ne faut pas se mentir, il faut être réaliste, mais par contre qui se maintient et qui permet à des nouveaux commerces de à la fois conserver et ne pas fermer, mais surtout avoir de nouveaux commerces qui s'installent, puisque sur Manosque, j'ai 30 commerces qui ont ouvert sur l'année 2021 en centre-ville, donc c'est plutôt des bonnes perspectives.
Un dispositif pour accompagner la rénovation énergétique.
Le service d'accompagnement à la rénovation énergétique est un dispositif local, gratuit et accessible à tous pour mieux guider et accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation au niveau technique comme financièrement. Dispositif public porté par le Parc du Luberon et l'espace France Rénove, le SAR est réalisé en collaboration avec le département des Alpes de Haute-Provence et Durance-Luberon-Verdon agglomération. Chargée de mission architecture et patrimoine au parc, Colline Philippe présente ce service au micro de Mathieu Marc.
Le service d'accompagnement à la rénovation énergétique que propose le parc du Luberon, il est porté depuis 5 ans maintenant par le parc. C'est un service qui s'adresse aux particuliers, mais aussi aux petits tertiaires, dans leur projet de rénovation énergétique, que ce soit d'une habitation, d'un appartement ou d'un local type commercial ou pour le petit tertiaire.
À préciser que n'importe qui peut faire appel à ce service.
Alors oui, c'est un service public qui est gratuit, qui est neutre, et n'importe qui peut faire appel à ce service, soit en prenant contact directement avec l'animatrice conseillère qui se trouve à Apt, au parc du Luberon, soit en rencontrant l'architecte conseil dans les mairies. Chaque commune du parc a un architecte conseil qui est présent en moyenne entre une fois par mois et une fois par semaine en fonction de la taille de la commune. Et il suffit de téléphoner au secrétariat de la commune pour solliciter un rendez-vous avec l'architecte conseil. C'est un service qui est porté par le département des Alpes de Haute-Provence et aussi par les intercommunalités. Et il faut savoir que l'intercommunalité DLVA, Durance-Luberon-Verdon agglomération, est une des premières intercommunalité à s'être engagée, puisque bien avant que le service d'accompagnement à la rénovation énergétique existe, l'intercommunalité était déjà engagée aux côtés du parc pour proposer un accompagnement à la rénovation énergétique. Donc c'est dans la continuité de ce service qu'on proposait déjà depuis 3 ans qu'on a candidaté avec le parc du Luberon et l'Association pour la transition énergétique sur l'appel à projet qu'a fait le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce service d'accompagnement à la rénovation énergétique a évolué en 2021. En quoi s'est-il amélioré ?
Donc ce service, il a vraiment été amélioré par la possibilité qu'a l'animatrice conseillère qui se situe à Apt de se rendre chez les gens pour faire des diagnostics énergétiques. Et tout ça, ça permet d'avoir un accompagnement à domicile. Donc on va vraiment venir voir comment sont vos menuiseries, comment sont les murs, quel type, on va dire, d'installation niveau chauffage vous avez. Et ça permet d'avoir vraiment un diagnostic complet et global.
Il y a différents aspects à ce service, à savoir un accompagnement de conseils techniques, de conseils pratiques aussi pour les démarches administratives et les recherches de financement, ainsi que l'aide aux travaux.
Oui, en fait, l'animatrice conseillère qui est à Apt va à la fois donner des informations donc techniques, elle peut réaliser un diagnostic énergétique simplifié du logement, elle va faire une simulation des travaux envisageables pour faire des économies d'énergie, et ensuite, sur la base de la situation du ménage, elle va proposer un panel d'aides qui sont souvent des aides gouvernementales, en fait, via MaPrimeRénov', et indiquer aux particuliers quelle est la meilleure solution à adopter en termes de travaux, de coûts global et aussi de gains énergétiques.
Oui, parce qu'on ne sait pas forcément qu'il y a des aides disponibles de l'État pour aider à la mise en place de travaux pour un gain énergétique ?
Effectivement, c'est très flou autour des aides. C'est très flou pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de démarchages téléphoniques. Notamment, on a eu beaucoup de problèmes avec l'isolation des combles à 1 euro. Et on avait du coup énormément d'appels, les gens étaient perdus. Et on a aussi beaucoup de difficultés à y voir clair lorsqu'on se lance dans le projet, parce qu'on a un panel d'aides différentes, que ce soit les aides de l'État, parfois les aides de la région, ou même ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont des aides indirectes de l'État, mais qui sont payées en fait par les financeurs privés qui polluent, entre guillemets, puisque ce sont essentiellement les fournisseurs de carburant, par exemple, ou d'énergie grise, qui vont payer en fait les certificats d'économie d'énergie. Et les particuliers peuvent en bénéficier comme aide sur leurs travaux.
À noter aussi que les travaux de rénovation doivent rentrer dans le cadre du patrimoine architectural du parc.
Alors, les travaux de rénovation qui sont envisagés doivent, si possible, au maximum, respecter effectivement le patrimoine bâti qu'on a sur le territoire. Patrimoine qui est exceptionnel dans les villages, dans les villes. Et c'est la raison pour laquelle nos architectes conseils sont la clé d'entrée, en fait, de ce service, puisqu'ils ont un avis à donner sur l'ensemble des déclarations préalables, l'ensemble des permis de construire qui sont déposés sur le territoire. Et ils vont à la fois faire un accompagnement technique et un accompagnement sur l'aspect architectural. Sur le parc du Luberon, on est environ à 200 ménages accompagnés par an en travaux de rénovation énergétique. Après, à l'échelle du territoire du parc, on est sur 900 à 1000 ménages accompagnés par an. La demande fluctue en fonction des années, mais on est sur des chiffres qui sont en fait très faibles à côté des autres associations, puisque nous, notre clé d'entrée, ce sont les architectes conseils qui sont dans les mairies, donc les déclarations de travaux, à savoir permis de construire et déclaration préalable de travaux. En fait, il ne faut pas hésiter, dès qu'on a un projet de travaux, à se rapprocher de l'architecte conseil du parc en mairie ou bien du parc du Luberon directement en allant sur le site internet pour avoir des infos à la fois sur comment monter son projet, comment se faire aider, quel choix faire pour que ça corresponde en fait aux critères qu'il y a sur notre commune, sur notre territoire. Le site internet, c'est tout simplement donc parcduluberon.fr et c'est dans la rubrique sur l'éco-construction et la transition énergétique.
Éthique médicale et fin de vie, la maladie, la mort, la dignité.
Michel Caillol, médecin et chirurgien orthopédique, est également docteur en philosophie et formateur en éthique hospitalière. Il était récemment invité au Cine-Étoile de Digne de l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et c'est devant plus d'une soixantaine de personnes attentives qu'il a donné une conférence, éthique et fin de vie, traitant des questions sur l'humain, la maladie, la mort et bien sûr la dignité. Je vous propose d'écouter le docteur Caillol au micro d'Odile Frison, mais d'abord, nous entendrons Thierry, une personne du public, membre de Jalmalve, et qui a accepté de témoigner à l'issue de la conférence, quand d'autres, plus réservés, n'ont pas souhaité s'exprimer.
Pris dans l'action et la vie, on a tendance à oublier tous ces questionnements, et on voit que c'est quand même intéressant de se poser toutes ces questions. On ne peut pas tout automatiser, que ce soit par la loi ou par d'autres moyens.
Vous êtes venu parce que vous connaissiez Jalmalve.
Oui, je connais Jalmalve, puisque je fais partie de l'association, mais même, j'aime bien tout ce qui est philosophique aussi. C'est vrai que revenir un peu aux sources du langage, etc., rappeler les choses, tout ça, c'est quand même important, je trouve. Et surtout, de s'attacher à ce qui nous fait qu'on est humain, quoi. Parce que ça, c'est aussi toujours des questionnements. Pour moi, c'est très important de se reposer ces questions, de prendre un temps de réflexion, effectivement, par rapport à tout ça, quoi. Surtout dans les conditions actuelles où on s'aperçoit qu'on est confronté à des gens qui font d'autres calculs que ceux de l'humain. Je me souviens même plus, c'est quand ça a démarré que je me suis souvenu que ah, mais j'avais déjà fait cette conférence et je ne me suis pas ennuyé du tout. C'est un travail personnel aussi, hein. C'est surtout ça aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Les questions, donc effectivement, sur l'euthanasie, ça pose... Est-ce qu'on automatise ou pas? Parce que là, on est toujours... En fin de compte, on veut qu'on nous résolve tous nos problèmes alors que c'est à nous de les résoudre, quoi. Et ça, c'est le plus difficile, ouais. Voilà.
Docteur Michel Caillol, vous venez de faire une conférence sur éthique et fin de vie. La mort n'est plus vue de la même façon qu'il y a plusieurs siècles.
Voilà, de mon point de vue, hein, après, ça n'est qu'un point de vue. Mais les faits le montrent. On cherche à effacer la mort comme si c'était une saleté. D'ailleurs, les transhumanistes ont comme désir de nous débarrasser du problème de la mort. Comme si c'était un problème qui se rajoutait à notre vie. Alors qu'il fait, comme dit François Chang, la mort fait partie de notre vie. Donc il faut la craindre, et bien entendu, mais il faut l'accepter comme telle, puisqu'elle donne du sens à notre vie. Si nous n'étions pas dans la temporalité, ce que j'ai dit en plaisantant, on serait dans un monde de fous. Donc c'est à la fois dur et en même temps c'est salvateur. Et du coup, il faut entourer la mort non pas comme un problème, mais comme une réalité qu'on doit accompagner. C'est pour ça que les gens de Jalma vont, même leur mot est bien, accompagner la vie jusqu'à la mort, ou la mort jusqu'à la vie, peu importe. Mais ça veut dire que c'est l'accompagnement plutôt que la résolution du problème, parce qu'on ne peut pas résoudre ce problème.
Vous avez commencé cette conférence avec histoire de mots, justement, quand on souhaite une bonne santé aux gens, c'est pas positif?
Alors c'est positif, mais ça enferme les gens dans une norme dans laquelle personne peut vraiment rentrer, puisque la santé, ça veut rien dire, si ce n'est la définition que vous avez entendue de l'OMS, qui est complètement illusoire, hein, un état complet de bien-être physique, mental et social, alors qu'il n'y a aucune norme d'être au monde. Il faut simplement, dans ces conditions d'être au monde, moi paralysé, un cancéreux, un diabétique ou qui que vous voulez, il faut simplement lui permettre de continuer de pouvoir exister. Et c'est ça qui est fondamental. Alors quand on dit bonne année, bien entendu que ça part, c'est très bienveillant, mais quand on rajoute surtout bonne santé, ça veut dire si tu n'as pas la santé, tu es fichu. Ce que je conteste tout à fait, puisque la santé n'existe pas.
Et on peut être malade et pas malheureux pour autant?
Exactement, exactement. On peut être donc malade, hein, la définition que j'ai donnée c'est malhabitus, ne pas bien habiter le monde. On peut être d'après la médecine malade, un cancéreux, un diabétique, moi-même, etc. Tout en étant, en habitant très bien le monde, donc en étant au sens étymologique absolument plus malade. Je suis absolument plus malade du tout, alors que je l'ai dit, mon bras est strictement le même qu'il y a 17 ans. C'est bizarre, hein, ça étonne tout le monde, moi le premier, mais c'est très vrai. Donc je me trouve en très bonne santé. Du point de vue des critères normatifs, biologiques, médicaux de la santé, je ne suis pas dans un état complet de bien-être physique.
Vous parliez de, maintenant c'est vrai qu'on maquille les morts, on s'en débarrasse rapidement, on déguise la mort. Ouais. Avant, on photographiait les morts, chose qu'on n'a plus le droit de faire.
Enfin, c'est vrai, les masques mortuaires, vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais alors quand il y avait la photo, mais au Moyen-Âge, on n'avait pas besoin de maquiller la mort, d'abord on n'avait pas de maquillage, le mort était un mort, il était ni laid ni pâlé, il était mort et il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, on en a tellement peur qu'on la déguise, pour dire non, il n'est pas mort, bien sûr qu'il est mort. Donc on l'a maquillé, on voudrait le rendre vivant, mais il est plus vivant. Comme si on n'acceptait pas ça. Et je répète, c'est le courant transhumaniste se branche là-dessus. Hein. On va supprimer la mort, rassurez-vous, la maladie et la mort.
Même par rapport aux enfants, on cache la mort, on dit il est parti.
Vous avez raison, j'ai un ami qui a eu un gros trouble, j'ai toujours cet ami. À l'âge de 10 ans, son père est parti en voyage. Il a compris à 14 ans, 4 ans après, que son père était mort. Dans la famille, on lui avait raconté qu'il était en voyage. Donc il a une perturbation psychique majeure, c'est un type très bien. Mais pour vous dire qu'on fait du mal, alors il ne s'agit pas de dire la vérité nue et crue, mais annoncer que oui, mon propre petit-fils que je fais conduire à la campagne sur mes genoux, puisqu'il a 5 ans, et ça lui plaît, il m'a dit de manière limpide et spontanée, alors ta voiture me plaît beaucoup, j'ai dit ben oui, ben quand tu seras mort, tu me la donneras. Sous-entendu, ça ne va pas trop tarder. Mais ils ont raison, pour les enfants, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on en rajoute une couche. Je dis pas que c'est notre destin, mais on en rajoute une couche. Comme si on voulait la nier, on n'y arrive pas et ça rend malheureux. C'est comme les excès de la chirurgie dite esthétique qui voudraient me faire croire que je vais pas vieillir. Mais je vais vieillir quand même.
Vous avez parlé bien sûr de la loi Leonetti. C'est une loi qui a un peu évolué, c'est ça?
Alors il y avait la loi Leonetti d'avril 2005 qui a été complétée par la loi dite Claeys. Donc la loi Leonetti, comme je l'ai dit, elle donne le cadre et ce qu'on... Les traitements sur lesquels on doit réfléchir pour pas tomber dans l'obstination. Et la loi Claeys rajoute des petites nuances importantes, mais surtout, elle introduit la sédation profonde et continue, qui est, je l'ai dit et je persiste, une anesthésie générale pendant que je suis en train de mourir. Pronostic vital engagé à court terme. Donc ça n'est absolument pas une euthanasie. Bien entendu que le malade va mourir, mais il meurt pas du tout de cette anesthésie. Il meurt de sa maladie qui est en train de le tuer.
tous, on a beaucoup de questions à se poser, puisqu'on est tous confrontés à la mort, aux personnes âgées, vieillissantes, ou les EHPAD et les conditions de vie. Est-ce qu'on peut espérer que le personnel soit mieux formé aussi par rapport à l'éthique de la personne?
Voilà.
J'ai entendu une personne âgée dans un EHPAD, là, qui avait peut-être 95 ans, qui disait, là, vous me voyez comme une vieille dame, mais avant, j'étais quelqu'un, vous savez.
Et elle est toujours quelqu'un.
Oui.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la sensibilisation du personnel pour ce que vous venez de dire, réapprendre la dignité des personnes, etc. Donc, améliorer tout ça, c'est évident. Et puis, je crois qu'il y a presque un changement de paradigme. Je pense qu'il faut essayer de limiter au maximum les EHPAD tels qu'on les fait, comme si c'était des vieillardiums, pour essayer, autant qu'on peut, on ne pourra pas, évidemment, à 100%, introduire les personnes âgées dépendantes le plus possible dans la vie normale de la ville, de la bourgade, du village, en réservant par exemple un étage d'immeuble chaque fois qu'on en fait un, avec une aide à domicile pour qu'il y ait quelques personnes âgées, qui vont leur permettre de donner encore plus de sens à leur existence, puisque, comme je le revendique, il n'y a pas de situation où on ne puisse plus donner de sens à son existence, sauf si on n'a plus envie, il y a toujours 15% des gens qui ne sont pas contents de leur existence. Respect pour eux, mais globalement, à 85%, on peut toujours donner du sens à sa vie, y compris quand on va mourir.
Oui, et le mot terrible des anciens qui nous disent « je suis inutile, je ne sers plus à rien », alors
horrible.
Que c'est quand
de
même...
De les culpabiliser comme ça, c'est
oui.
Horrible. C'est horrible, parce qu'on les culpabilise, et ce que je disais, je ne suis pas non plus apocalyptique, mais si en plus on leur dit ben, « tu sais, on peut t'euthanasier », il y a de bonnes chances, ils disent ben, « tu as raison, on va y aller ». Et c'est encore plus horrible.
À Saint-Michel Observatoire, un planétarium prestigieux.
Le qualificatif est justifié. Même s'il s'est fait désirer pendant plus de 2 décennies, le planétarium du Centre d'astronomie est un vrai bijou de technologie et d'intelligence. Planté sur le plateau du Moulin, près du sidérostat et des télescopes du centre, une ogive immaculée d'un diamètre de 11,50 m ne passe pas inaperçue. Le seul planétarium de cette taille dans la région et qui rejoint le cercle très fermé de quelques pièces imposantes dans notre pays. À l'intérieur, prêt à recevoir projections et animations, le dôme d'observation et une myriade d'objets et outils technologiques, et à l'extérieur, les yeux au ciel, tout l'espace stellaire à explorer. Assis dans des sièges qui invitent à la contemplation des étoiles, le public fasciné se laisse embarquer dans l'infiniment lointain au son des explications limpides d'Olivier Labrevoir. Une vraie prouesse technologique et pédagogique, l'essence même et la raison d'être du centre d'astronomie situé à quelques encablures de l'Observatoire de Haute-Provence du CNRS, grâce au soutien financier de l'État, du département et de la région, partenaire essentiel, et avec une participation du Crédit Agricole, le planétarium de Saint-Michel, avec ses 62 places, ses animateurs et l'immensité cosmique, est appelé à divertir et faire rêver tous ses visiteurs. Je vous propose d'écouter deux personnalités heureuses de cette mise en service, Fabien Marquet, qui dirige le centre d'astronomie, et sa présidente, Claude Bouliou. Le lancement du planétarium Saint-Michel l'Observatoire, il y a un mot qui me vient à l'esprit, Claude Bouliou. Enfin.
Enfin, oui, enfin, après 30 ans, je crois, 30 ans d'études, de réflexions, de négociations, pour convaincre, et on y est arrivé.
Alors c'est un très bel outil qui va compléter l'offre, tout ce qu'il y a au centre d'astronomie.
Tout à fait, l'originalité de ce projet, c'est justement, il s'inscrit, et c'est ça qui a servi à convaincre, qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus global, d'abord avec l'OHP, c'est-à-dire il y a déjà la notoriété de l'Observatoire de Haute-Provence, qui est installé depuis 1936, géré par le CNRS, et puis l'existence du centre d'astronomie qui existe depuis 20 ans maintenant sur le site, 25 ans presque, et qui est unique aussi, puisque à la différence de la plupart des planétariums qui sont en milieu urbain, celui-ci s'intègre dans une offre qui intègre déjà un parc d'instruments très important avec un T600, un T560 et beaucoup de petits télescopes et surtout un sidérostat qui est aussi un instrument unique en France qui permet d'observer le soleil en direct avec une capacité aussi de 60 places. Donc ça dédouble, ça fait 2 équipements fermés qui permettent un d'observer le soleil, l'autre d'observer le ciel.
Tout est complémentaire avec en plus le cadre de Saint-Michel l'Observatoire et le ciel en direct, si l'on veut. Il y a un côté pédagogique dans votre activité.
Tout à fait. Quand on dit tout est complémentaire, c'est aussi que le planétarium va être animé par la même équipe de médiateurs scientifiques. Donc, ils connaissent parfaitement le métier, le lieu. Et c'est la force du planétarium, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans cette offre-là. Il complète complètement l'offre qui est une offre pédagogique et qui s'adapte à tous les publics, sur les publics scolaires allant de l'école primaire jusqu'à l'université, public amateur, public averti, astronome. Voilà, on s'adresse vraiment à tous les publics.
C'est un dossier qui a pris du temps, certes, mais qui est soutenu par des pouvoirs publics, mais aussi avec des fonds privés.
Oui, les soutiens essentiels, c'est la région qui était le principal financeur de ce planétarium, qui est le grand planétarium de la région sud, le département qui a cédé le terrain, et puis c'est sur son site, et puis un partenaire privé qui est Crédit Agricole, auquel je suis habituée, puisqu'il est aussi partenaire d'autres associations dont je m'occupe.
À vos côtés, le maître d'œuvre de toute cette opération, Fabien Marquet, vous dirigez vous-même le centre d'astronomie. C'est un magnifique outil que vous avez là.
Oui, c'est une belle machine, une grosse machine, et qui s'agrandit encore avec l'arrivée de ce planétarium. Mais c'est un grand plaisir pour toute l'équipe.
Quel est l'objectif de ce planétarium et qu'est-ce qu'on y voit ?
L'objectif, c'est toujours le même. On est toujours sur la même mission. L'objectif, c'est de faire découvrir l'astronomie au plus grand nombre. Donc on continue. C'est pour ça qu'on parle d'outils complémentaires. Une nouvelle corde, en fait, à notre arc. Une nouvelle façon, encore, de faire de la médiation, de faire de la découverte. Alors là, vous avez une petite démonstration. Je dis une petite démonstration, puisque là, on vous a montré 15% de la capacité de ce qu'on allait être capable de faire. Pour le dire simplement, moi, le planétarium, moi et pour l'équipe, le planétarium, c'est une machine à voyager dans l'espace, bien évidemment, une espèce de vaisseau spatial un peu virtuel, et c'est aussi une machine à voyager dans le temps. Là, ça vous donne une idée de ce qu'on va être capable de faire. On va être capable de vous emmener un petit peu partout dans l'univers connu et visible.
C'est une technique hybride qui gère le planétarium et les images que l'on voit.
Oui, alors ça, c'est pas tellement le choix de l'association, c'est plutôt ceux qui ont travaillé sur le cahier des charges à l'origine de ce dossier, qui, en vue de la qualité du ciel naturel que nous avons à Saint-Michel l'Observatoire, ne voyaient pas un autre système, alors là c'est un petit peu technique, qu'un système hybride, où là on va coupler un système numérique et un système digital. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'avoir un piqué d'étoiles qui va être le plus ressemblant possible au véritable ciel.
Avec une qualité optique magnifique. Fabien, vous avez également dans votre équipe des membres extraordinaires. Je pense à Olivier Labrevoir qui nous a fait une démonstration magnifique et qui permet justement de vulgariser au sens le plus noble de ce terme.
Tout à fait. Alors Olivier qui est le responsable de l'équipe d'animation et le reste de l'équipe aussi qui a été d'entrée de jeu très engagé sur ce projet. Je le précise parce que c'est vrai que ça c'est toute la partie que l'on ne voit pas. On a parlé tout à l'heure des 3 semaines de formation que nous avons eues avec RSA Cosmos, mais à côté de ça, j'en suis témoin parce que j'en faisais partie également. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures passées devant l'ordinateur à faire de la programmation, à faire des essais. En fait, on scénarise nos séances, vous l'avez découvert tout à l'heure. On est sur des mini-scénarios d'une quarantaine de minutes. On le fait avec passion. On a essayé en tout cas de le partager avec vous. Et on espère que le résultat vaut le coup.
Et puis on part la tête pleine d'images évidemment, mais on peut aussi partir les mains pleines avec une boutique qui est juste à la sortie.
C'est vrai, on a installé une boutique qui est tenue pour l'instant par Monica qui a rejoint l'équipe, qui est une nouvelle recrue. L'idée, c'est vrai qu'on a eu une petite période dans l'histoire du centre d'astronomie, on n'avait plus de boutique et c'était quelque chose que le public regrettait. Il venait nous le dire, on serait bien reparti avec un petit souvenir, un petit bouquin, une petite carte postale. Alors c'est vrai qu'on a ouvert ce lieu, on espère que le public y trouvera son bonheur également.
Longue vie au planétarium.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie et à la semaine prochaine.